Jean, chapitre 27. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmone pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages et qu'il y aura beaucoup de pertes. Non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Donc, Paul, qui avait été en prison pendant 2 ans, qu'on a laissé à Césarée, on avait appelé à l'empereur et devait donc être envoyé par les autorités romaines jusqu'à Rome. C'était, on va le voir avec la description par Luc du voyage de Paul, que c'était pas un voyage facile, c'était un voyage très long. Et on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre les dernières paroles au chapitre 26 et le moment où leur embarquement pour l'Italie a été décidé, ici au début du chapitre 27. Mais on voit que Paul est confié donc à un centurion Julius, qui était d'une cohorte impériale à Césarée. Il était avec d'autres prisonniers. On ne sait pas si c'était d'autres prisonniers qui étaient dans le même cap que Paul, qui étaient aussi envoyés pour être jugés à Rome ou pas. Il y avait sans doute des prisonniers qui étaient envoyés pour se battre en tant que gladiateurs, un petit peu comme certains films hollywoodiens ont pu nous le dépeindre. C'était une pratique qui était courante à l'époque. Rome, il faut savoir qu'il y avait une population de 2 millions d'habitants estimée, dont la moitié étaient des esclaves. Donc c'était quelque chose, ce commerce des esclaves, cet envoi de prisonniers était quelque chose de courant, un peu comme des marchandises. Et on va regarder ensemble, alors on avait la carte que je vous avais donnée, et on va pouvoir regarder ensemble le détail un petit peu de ce voyage. Et voir aussi un petit peu l'historicité, vraiment les détails que Luc nous donne. Si quelqu'un a besoin de la carte, j'en avais encore une. Mais bon, il y en a dans les fins des Bibles en général. Et donc on voit qu'ils partent de Césarée en bâton, qu'ils remontent la côte de la Syrie vers Sidon. Là, ce Julius traite Paul avec bienveillance. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelles étaient ses raisons, mais en tout cas, il laisse Paul aller voir des amis, mais recevoir des soins. Là encore, on ne sait pas exactement les détails. On sait que Paul Paul était déjà un homme âgé qui souffrait, qui avait des problèmes. On avait parlé de ses problèmes de vision et peut-être d'autres problèmes de santé. Et avant ce long voyage pour aller à Rome, le fait d'aller voir des amis, peut-être de leur dire au revoir pour la dernière fois, des gens qu'il connaissait, des frères à Sidon, ça a peut-être été une bonne chose pour Paul. Et ensuite, ils partent vers le nord. Alors, traditionnellement, la route qu'auraient emprunté les bateaux était une route plus directe, comme Paul avait emprunté lorsqu'il était revenu pour aller à Jérusalem. C'est cette route qu'on voit qui passe au sud de l'île de Chypre et qui arrive directement vers Rhodes, l'île de Rhodes. Et ici, à cause des vents contraires, des conditions climatiques, ils sont obligés de remonter vers le nord et de passer derrière l'île de Chypre, qui est une île avec des montagnes et qui permet d'un petit peu abriter les bateaux de certains vents contraires par rapport à la direction qu'ils voulaient emprunter. Et ensuite, ils ont longé la côte de la Turquie. Donc c'est ici ce qu'on voit au verset 5. La Cilicie, la Pamphylie. Et ils sont arrivés à Myra, en Lycie. Ensuite, ils longent la côte plus loin. Après avoir changé de bateau. Et ils naviguent lentement. Et ils arrivent à hauteur de Cnide. Et là, on voit que plutôt que de prendre la route, encore une fois, qui était plus traditionnelle, de passer directement vers la Grèce et Athènes, ils sont obligés de couper vers le sud et de passer en dessous de Crète. Et donc, ils arrivent dans ce port appelé Beauport, qui est un petit peu sur la petite pointe qu'on voit au sud de la Crète. Et on voit verset 9 qu'ils étaient arrivés à une période où il devenait difficile et dangereux de naviguer. Le jeune là dont il est question, c'est sans doute le jeune qui était pour ce qu'ils appellent le jour des expiations, dont on peut lire les détails dans Lévitique, et qui était à cette époque-là. Cette année-là, ils estiment que c'était vers le début du mois d'octobre. Et donc, ils hésitent. À l'époque, pour les marins, la navigation se faisait surtout l'été, les périodes où il faisait beau. Les périodes d'octobre et de novembre étaient des périodes un petit peu où on évitait si possible de naviguer, mais où c'était encore toléré. Et l'hiver, donc à partir du mois de novembre, donc décembre, janvier, février et même le mois de mars, c'était des mois où on ne naviguait pas, à moins d'avoir vraiment des urgences. C'était un petit peu une folie de naviguer à cette époque-là. Et donc ils hésitent là à continuer. Ils sont dans ce port qu'ils appellent Beauport. Et on ne sait pas exactement pourquoi ils ont envie de continuer. On suppose qu'éventuellement, à cause de l'orientation du port, ce n'était pas un port où c'était une bonne chose d'hiverner. Le bateau pouvait peut-être être abîmé, même s'il ne naviguait pas. On peut se dire que c'était aussi peut-être à cause du fait que les marins n'avaient pas envie de passer 3 ou 4 mois dans un tout petit village, avec rien à faire. Et ils préfèrent prendre le risque de continuer jusqu'à une ville plus grande, la ville de Phénix, qui est plus loin vers l'ouest, sur la côte de la Crète. Et ici, donc, Paul donne son avis. On va voir tout au long du voyage, Paul parler plusieurs fois, et on va voir comment son discours et le respect dont il va bénéficier de la part des gens dans le bateau va changer. Et ici donc, il leur parle. À votre avis, en quelle On pourrait être un petit peu surpris de voir Paul parler. Quand on pense à Paul, on se dit, bon, théologien, juif, qui a beaucoup écrit, plutôt un gars avec des idées. Le voir parler ici et donner son avis, on se dit peut-être que c'est Dieu qui lui a averti ou qu'il a une parole un petit peu prophétique. Ce qui pour moi, en le lisant la première fois, était ma réaction. C'était me dire, bon, ben, c'est Dieu qui lui a parlé et lui donne... En lisant la plupart des commentaires que j'avais sous la main, en regardant, la plupart sont d'accord pour dire que Paul parle ici en homme expérimenté, en voyageur expérimenté. Et on estime qu'à ce moment-là, il avait déjà presque 6000 km de voyage en mer à son actif. Et que sans doute, même beaucoup des marins ou des jeunes marins dans le bateau avaient moins d'expérience que lui, avait moins de vécu que lui par rapport au voyage en mer. On peut se tourner aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25, où Paul parle un petit peu de son expérience au cours de sa vie. Et il parle en passant du fait qu'il a déjà été 3 fois naufragé. Donc il a une bonne expérience de la mer, il sait ce que c'est d'être naufragé, il sait les dangers qu'ils encourent, il sait les risques qu'ils prennent. Et ici, donc, à mon avis, il exprime plutôt son avis. C'est 2 Corinthiens 11, 25. Et donc... Il exprime son avis en disant, bon, ben, on risque gros et on va beaucoup perdre. On peut craindre pour nos vies, on peut craindre aussi pour le bateau, pour les cargaisons, mais on prend un gros risque. Et on voit que l'officier se fie plutôt à l'avis du capitaine et du patron du bateau. Ce qui est peut-être un petit peu logique, sans doute en voyant Paul, en le voyant, encore une fois, on avait parlé du fait que ce n'était pas un homme avec une apparence physique impressionnante. Et donc le capitaine, le centurion, décide de faire confiance au marin. Et on voit verset 13 où on a arrêté de lire, qu'ils sortent et un léger vent du sud se lève et... C'est exactement ce qu'il voulait pour les pousser le long de la côte de la Crète vers la ville de Phénix ou de Phénice sur la carte là. Et on va continuer de lire. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Heraclion s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Cauda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer vers la Syrte, ils ont abaissé les voiles, et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer, et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que, finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec patience. Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et l'ont laissé tomber. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller dans la mer et ont en même temps relâché les attaches des gouvernails. Puis ils ont mis au vent la voile d'Artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable et ils y ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre. Donc ils partent et tout va bien. Tout se passe bien. Ils remontent la côte. Il y a un léger vent du sud. Et un vent appelé Euraquilon se lève. Et ce vent, ce nom, là utilisé par Luc, était quelque chose qui, pour les marins de l'époque, était un petit peu une certitude, était quelque chose qu'ils redoutaient, dont ils avaient extrêmement peur, parce que ça les poussait inexorablement vers le sud, vers les régions nord-africaines, vers la Libye. Et ça les poussait, on voit plus loin qu'il est question de ce qu'ils appellent la Sirte, qui était en fait une région au nord de l'Afrique. On le voit sur une des cartes ici, directement au sud de l'Italie en fait, qui était un grand golfe avec des hauts fonds sableux sur lesquels les bateaux pouvaient s'empêtrer, s'échouer, mais très loin au large, et où en général s'ils se retrouvaient coincés sur ces hauts fonds sableux, ils étaient certains de périr. Et donc ce vent se lève, et tous ces marins, avec certitude, ont tout de suite saisi ce que ça signifiait. On voit qu'ils passent à côté d'une petite île qui s'appelle Clauda, qu'ils ont difficilement réussi à rentrer le canot de sauvetage. Ici, c'est intéressant de voir les mots avec lesquels parle Luc. Le fait qu'ils disent « nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage », on peut imaginer que là, ils sont dans une telle panique, il y a tellement de choses à faire à bord, ils essaient de tout retenir. On a l'impression là que Paul et Luc ont peut-être été mis eux-mêmes à contribution. Les marins ont dit vous essayez d'aller rentrer le canot pendant que nous, on essaie de sauver les meubles sur les voiles, sur les cordages. Ils se disent avec ce vent, on va dériver directement vers ces zones très dangereuses de la Syrte. Et donc ils essayent de baisser les voiles, de limiter leur prise au vent, de limiter l'effet que le vent va avoir sur le bateau pour les entraîner vers cette région. On voit que pour éviter de s'empêtrer dans les hauts fonds sableux, ils jettent tout ce qu'ils peuvent à la mer pour essayer d'alléger le bateau pour qu'il soit moins enfoncé dans l'eau. Ils jettent la cargaison. On ne sait pas ce que c'était. Ils jettent ensuite même les agrès, tout l'équipement du bateau, tout ce qu'ils pouvaient jeter, tout ce qui était superflu, on va dire, dans cette situation. Le verset 20 est intéressant. Nous ne nous parle peut-être pas trop, mais le soleil et les étoiles, pour les marins de l'époque, c'était leur système de guidage, c'était leur système de GPS. Et donc le verset 20, là, quand il parle, ça veut dire que ça fait plusieurs jours, peut-être une semaine, on a vu que c'était 3 jours quand ils ont jeté les agrès, et après plusieurs jours, donc c'est un petit peu, ils ont l'impression qu'ils ont perdu le compte des jours. Ils n'ont plus vu les étoiles, le soleil. En fait, ils n'ont plus aucune idée d'où ils sont sur la mer. Ils ne savent pas s'ils sont près des côtes africaines. Ils ne savent pas où. Ils n'ont plus aucune idée de d'où ils se trouvent. Et j'ai du mal. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais est-ce que. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne connaît plus cette idée d'être perdu. Vous êtes complètement perdu. Est-ce que vous avez déjà vécu dans votre vie une situation où vous êtes complètement perdu?
Je fais
plus. Puis en plus dans la mer, je veux dire.
Oui,
si vous avez. Moi, des fois, je me dis aussi, je ne sais pas votre impression, mais moi, je me dis la mer Méditerranée, ça va quoi. C'est une petite. Par rapport à l'Atlantique, des fois, ils nous montrent, il y a Thalassa. Une émission en France qui montre des images de la mer les vendredis soirs. Ça fait 20 ans que ça passe, alors forcément on tombe dessus de temps en temps. Et on voit ces images en Atlantique, des gardes-côtes là, qui avec les bateaux, qui font des trucs de fou. Et on se dit, la Méditerranée, ça va quoi. Mais c'est les bateaux là de Corsica Ferry. Moi j'ai déjà été, la dernière fois que j'étais en Corse, j'étais sur un des bateaux, je devais aller en NGV, les bateaux rapides. Mais il y avait la tempête, et en fait, par temps de tempête, les bateaux, les petits bateaux NGV, ils ne peuvent pas les sortir. Donc déjà, on se dit, bon, ça c'est un petit bateau en bois, alors que ça, c'est des gros bateaux. Il y a quelques années, il y avait un bateau NGV, là, qui s'était fait défoncer par une vague, qui avait eu le devant, qui s'était fait complètement casser, quoi. On se dit, mais là, ils sont dans un petit bateau en bois. On va voir un petit peu les détails après, mais... Où est-ce qu'on a déjà passé? Non, c'est plus loin. Où il parle du fait qu'ils ceinturent le bateau. Ils prennent des cordages et ils l'entourent avec des cordages pour essayer de tenir les bouts de bois ensemble. Quoi. C'est. Je sais pas, vous êtes déjà perdu quelque part? Non? On a une perte avec un côté je risque quelque chose. Moi j'ai eu des sentiments un petit peu comme ça quand je suis allé au Maroc. J'allais avec un copain au Maroc, on était deux. On voulait aller voir les dunes dans le désert. Et on s'est retrouvés, donc on prend un bus 14h depuis Marrakech, on arrive dans un coin désertique, ils nous posent dans une ville qui a l'air paumé de chez paumé, juste un espèce d'arrêt de bus. Te laisse là et tu sais pas trop où t'es, tu sais pas si le bus est bien passé là où il devait passer, tu sais pas. T'as des gars qui te disent, t'as tous les espèces de vendeurs marocains qui voient des touristes, ils se disent c'est bon. Qui nous fait, ouais, j'ai un cousin qui a un truc dans le désert au pied des dunes, vous pouvez y aller, faire un tour de chameau, c'est parfait et tout. Et qui nous fait, ouais, venez, il y a un taxi, je viens avec vous et puis on y va. Puis au bout d'un moment, donc on prend le taxi, on arrive à un endroit, il fait, ouais, moi je dois descendre là. Il nous laisse avec ce conducteur de taxi qui parle pas un mot de français ou d'anglais, qui dit rien du tout. Et on part comme ça dans le désert et c'est plat, il n'y a pas de dune, hein, c'est rocailleux, plat, à l'infini. Et t'es avec ce mec là pendant genre une demi-heure, tu roules dans le désert et tu te dis là, le gars, il nous prend nos sacs, il nous pose au milieu et on est, mais fini quoi, fini, fini. Alors c'est pas la mer, c'est un peu moins, mais c'est vraiment, c'est peut-être. Et en plus, ce qui était marrant, c'est qu'il a fait en fait, c'est-à-dire qu'il nous a dit, bon, moi je vous laisse là. Il y a un gars qui va venir vous chercher dans un quart d'heure, là, en 4x4, et va vous amener. Donc, il nous pose au bout de la route goudronnée, et tu te dis, je ne sais pas où je suis, ils peuvent m'enterrer là, ma famille, ils ne retrouveront jamais le corps, ils ne sauront jamais où j'ai été. C'était quelque chose. Et là, ces gars-là, ils se disent, mais on peut échouer quelque part, on peut. À l'époque, ils n'étaient même pas très sûrs de savoir où finissaient les bords de la mer. Enfin, comme on a déjà dit, quoi, c'était un petit peu la terre est ronde, on ne sait pas trop, on ne sait pas si on va tomber. Alors, ils avaient une bonne connaissance quand même de la mer Méditerranée, mais. C'était mystérieux à l'époque. Et. C'est quelque chose qu'on connaît plus vraiment, je pense, ce genre de situation où on arrive au bout de nous-mêmes, où on arrive, enfin, ils ont plus mangé, ils ont plus, sans doute, ils n'ont pas dormi, ils étaient sans doute peut-être tous malades avec la mer qui les ballottait, ils comprennent vraiment plus rien, enfin, c'est. Ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Encore une fois, là, dans ces bateaux-là de bois, là, c'était au bout d'un moment, si la mer tapait trop dessus, des trucs ils se désagrégeaient, quoi. Et les bouts de bois se détachaient les uns des autres et tu finissais en. Et Paul qui profite toujours d'un bon moment pour annoncer des choses. Alors Paul avait, on voit là verset 21 qu'il se lève au milieu d'eux et qu'il leur dit, hein, je vous l'avais dit, j'avais raison. Ça nous rassure un petit peu qu'il était comme nous. Il ne peut pas s'empêcher de leur remettre une petite couche. Il reste gentil, mais il leur met un petit. Hein? Oh. Et il les encourage en leur disant que Dieu lui a promis, lui a réaffirmé encore sa promesse. Il devait aller jusqu'à Rome et comparaître devant l'empereur, et qui lui a promis que tous les gens qui étaient avec lui dans le bateau seraient sauvés. Alors là, on ne sait pas exactement, mais on peut supposer que Paul avait peur, malgré ses naufrages précédents, malgré tout ce qu'il a déjà vécu, tous les voyages en mer. Il a peur aussi. Peut-être qu'il avait peur aussi pour ses amis qui étaient avec lui dans le bateau. Dieu lui avait promis que lui irait devant l'empereur, mais peut-être qu'il se disait, mes bons amis là avec moi, ils risquent quelque chose. Et donc Dieu envoie un ange pour le rassurer, et pour lui faire une promesse. Et là, c'est assez marrant. Enfin. Parce qu'il leur il en dit en quelque sorte, tous les gens dans le bateau, ça va aller. Mais le bateau, on ne sait pas. Un petit peu comme si si tu étais dans un avion et le pilote il te dit l'avion je sais pas mais nous ça va aller. On va devoir s'écraser mais on va tous être sauvés. On ne sait pas exactement quelle était la réponse des gens dans le bateau, comment ils ont réagi. On va voir que peu de temps après, les marins essaient de s'échapper tout seuls. Donc on a l'impression qu'ils n'ont peut-être pas vraiment pris Paul très au sérieux, hein. Et quoi qu'il en soit, ils ont dû sans doute l'écouter avec attention. Et cette annonce, la promesse de Dieu et la suite de l'histoire va sans doute être une occasion de toucher beaucoup de ces hommes à bord de ce vaisseau. On a vu plus loin qui sont 276 personnes. Et on peut faire confiance à Paul qui leur a annoncé Jésus jusqu'au dernier. Il les a eus avec lui pendant plusieurs jours. Donc, verset 33. Ah non, on est verset 27. Donc, ils sont ballottés. Et les marins pensent qu'ils arrivent près d'une terre. Alors, on ne sait pas exactement. Moi, je suis pas marin, je vois pas vraiment comment les marins ont senti ça. Peut-être qu'ils ont entendu des bruits différents. Ils ont senti un bruit différent de la mer parce que ça a tapé contre des rochers ou peut-être des histoires d'odeurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils s'en doutent et ils commencent à jeter un poids pour mesurer la profondeur de l'eau, pour mesurer la profondeur, et ils voient que ça se réduit. Donc ils ont crainte d'échouer sur des récifs, et ils essaient d'arrêter le bateau un petit peu dans sa course, pour attendre le jour, le lever du jour, pour pouvoir y voir plus clair. Et les marins se disent, on a l'occasion, il y a sans doute une terre pas trop loin, on va filer en douce. Paul qui s'aperçoit qu'ils ont menti, là, il prétexte de jeter les ancres situées à l'avant et ils essaient de mettre le canot à la mer pour s'échapper. Et Paul dit à l'officier et aux soldats, si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Et les soldats coupent les cordages du canot et le laissent tomber à la mer. Et ici, encore une fois, on a Paul qui prononce quelque chose qu'on pourrait voir une parole prophétique où il dit, bon, bah, Dieu m'a dit qu'on allait tous être sauvés ensemble, et si on n'est pas tous ensemble, on n'a plus aucune chance. Mais il y a aussi peut-être juste une certaine dimension pratique où Paul dit, ben, c'est les marins, s'il y a bien des gens dans le bateau qui peuvent nous aider pour nous en sortir, c'est les marins. Si en plus on n'a pas leur expérience, ça va nous être vraiment préjudiciable, on ne sait plus du tout, même si on aperçoit une île, même si on aperçoit un moyen de se sauver, on n'aura peut-être pas le moyen de le faire. On n'aura pas la connaissance qu'ont ces marins. Et Paul, Les œufs encouragent ensuite à prendre de la nourriture en leur disant. Paul, encore peut-être, qui avait une vision très pratique de la chose, qui s'est dit on va peut-être avoir une journée très mouvementée, le fait de devoir nager jusqu'à la rive ou de batailler avec les flots, être très actif pour essayer de diriger le bateau vers l'île. Vous avez besoin de manger. On voit là que le fait qu'ils n'avaient pas mangé, ce n'était pas dû à un manque de nourriture. Donc il leur dit de manger, il prend du pain, il remercie Dieu devant tous, et puis il rompt le pain et se met à manger. Et ça donne du courage à tous ceux qui sont là, et ils mangent aussi. Et on a l'impression là qu'ils font vraiment vraiment confiance à Paul cette fois-ci en jetant le blé à la mer. Ils se disent bon, c'est bon, on est arrivé, on va jeter les derniers, peut-être les derniers vivres, on va jeter tout ce qui reste à la mer et on va arriver aujourd'hui. Et au lever du jour, ils voient un golfe qu'ils ne reconnaissent pas, avec une plage. Et ils se disent parfait, on va pouvoir échouer le bateau sur la plage et être sauvés. Ils détachent les ancres et ils essayent de diriger le bateau vers le rivage. On voit en fait, ils se retrouvent sur un banc de sable qui est encore une fois là au fond, au large de la plage, qui bloque le bateau, qui bloque l'avant du bateau. Et avec la violence des vagues, en fait, le bateau est en train d'être coupé en deux. Et les officiers se disent, on va tuer les prisonniers, puis partir à la nage. Encore une fois, là, c'était ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que les soldats romains étaient responsables, pouvaient être exécutés si jamais leur prisonnier s'échappait. Donc là, dans le doute, ils se disent, on ne sait pas trop ce qui va se passer là, on préfère les exécuter nous-mêmes plutôt que de risquer qu'ils s'échappent et qu'après, nous, on soit exécutés. C'était leur motivation. Mais l'officier veut sauver Paul. Il leur dit, non, on ne va pas faire ça. On va tous essayer de rejoindre la plage à la nage. Ceux qui savent nager et ceux qui ne savent pas vont essayer de s'agripper à des planches ou des débris. Et ils arrivent tous sains et saufs à terre. Et là, si on regarde la carte, on voit que l'île de Malte, par rapport aux dimensions de la mer Méditerranée, c'est quand même pas quelque chose de monstrueux. S'ils avaient loupé l'île, ils auraient dérivé peut-être jusqu'à la Tunisie. Sans doute que le bateau n'aurait pas tenu si longtemps. Peut-être même que si la tempête s'était calmée, ils n'auraient même pas pu repartir. Comme ils avaient tout jeté à la mer, le bateau étant peut-être endommagé, ils auraient plus pu naviguer, ils auraient été juste perdus en mer. Et donc on voit que Dieu a vraiment guidé, malgré la tempête, malgré tout ce qui s'est passé, Dieu était en train d'agir, était en train de guider le bateau. On voit aussi qu'a priori, avec le vent qui les a poussés initialement de la Crète, c'était un vent qui les a poussés vers le sud. Et pourtant, Dieu, après, il les a repoussés vers le nord. Ils auraient pu échouer en Afrique du Nord, et ça aurait été encore plus compliqué derrière, peut-être de rejoindre Rome. Ils se retrouvaient dans des contrées qu'ils ne connaissaient pas. Ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué. Alors que là, ils se retrouvent à Malte, qui finalement est un bon endroit pour continuer leur voyage jusqu'à Rome. Et enfin, c'est quelque chose qu'on dit, mais c'est peut-être bon de se le rappeler, d'y réfléchir, de se reposer des questions par rapport à nos vies, par rapport à nos circonstances, par rapport à ce qu'on vit. Mais notre conception souvent de Dieu et de ce qu'on appelle le plan de Dieu, le bon plan de Dieu, c'est un truc bien lisse, bien tranquille, où tout va bien, où on arrive tranquillement à destination, où les choses se passent bien, où on n'a pas de problème, où on n'a pas de contretemps, où on n'a pas de contraintes. Et là, pourtant, on voit clairement que c'est le plan de Dieu, qu'il y a pas de, que Dieu est en train de parler à Paul par un ange au milieu de la tempête, qu'il a... Il a tout laissé se passer comme ça s'était passé, le timing, tout était orchestré par Dieu. Et c'est bon de noter que Dieu, son plan, il n'est pas tout lisse, il n'est pas tout propre, il n'est pas tout gentil, il n'est pas tout doux pour nous. C'est des endroits où on va se retrouver, on va avoir peur, on va pas savoir si on va s'en sortir, on va pas savoir où on est, on va pas savoir... Souvent, on oublie ça. Quand on est dans les difficultés, dans les circonstances contraires, dans les choses qui nous mettent à l'épreuve, dans peut-être ce qu'on pourrait appeler des tribulations. On a peut-être toujours cette tendance de dire bon ben pourquoi Dieu est-ce que ou on prie Dieu de nous sortir de là ou de nous éviter ces choses-là. Paul dans ses lettres nous dit aussi de nous réjouir dans les difficultés, dans les épreuves, que c'est des choses qui nous permettent d'apprendre sur Dieu, d'apprendre comment il agit et d'apprendre à lui faire confiance. Et que c'est aussi des choses, si nous on arrive à faire confiance à Dieu et à voir que c'est le plan de Dieu, c'est aussi quelque chose qui permet de témoigner très fortement aux gens qui sont autour de nous. Parce qu'on a cette confiance, parce qu'on a cette tranquillité, parce qu'on a cette paix. Plutôt que de dire... Ça permet de vraiment prendre les gens à contre-pied, cette manière de voir les choses, parce que ils se disent, bon, ben, quand il y a des choses bien qui arrivent, c'est Dieu qui est gentil, et quand il y a des choses pas bien, c'est qu'on a un problème, nous. Il y a même des mouvements soi-disant chrétiens qui nous disent que s'il y a des choses qui vont pas, c'est que on n'est pas bien, on n'est pas juste, on n'a pas assez de foi, on n'est pas... Je vois vraiment pas où ils trouvent ça dans la Bible. Quand on voit ça, on voit que, bon, ben... Je dis, on va voir plus loin d'autres choses qui, vis-à-vis de certains de ces mouvements soi-disant chrétiens ou dans le christianisme. Dieu se sert de ces choses-là pour nous faire grandir, pour nous apprendre qui il est, pour nous apprendre qu'il est souverain. Et c'est pas parce qu'on manque de foi ou parce qu'il y a un problème nécessairement chez nous. Indépendant souvent de ces choses-là. Alors il y a des conséquences à nos péchés, dans certains cas de figure de nos vies, mais il y a aussi des circonstances, des tribulations, des choses qui peuvent nous arriver qui ne sont pas directement le fruit de péché ou directement le fruit de choses dans nos vies. Gardons-nous de penser que c'est... quelqu'un autour de nous meurt ou si certaines choses nous arrivent que que c'est à cause de nous. C'est le plan de Dieu, il est souverain et il veut nous apprendre des choses à travers ça. Oui.
Il y a aussi l'opposition de l'ennemi qui veut dérouter le plan de Dieu, qui suscite de l'opposition. Donc c'est un équilibre.
Enfin, disons que c'est un équilibre parce que. Mais c'est un équilibre entre. Parfois, le Seigneur va laisser Satan nous attaquer d'une certaine manière pour justement nous mettre dans des situations. Donc, dans le livre de Job, dans certaines choses que dit Paul, il dit que Dieu voit ce que fait l'ennemi et en quelque sorte, il est aussi. Même vis-à-vis de ça, il est souverain, il sait, il a un contrôle sur ça et c'est pas quelque chose qui est au-delà de son contrôle. Ce récit-là, encore une fois, on a vu l'exactitude et le degré de détail historique et le degré de détail dans les termes qu'utilise Luc dans l'écriture du livre des Actes. Et ce passage-là, il est encore une fois assez fou. Parce qu'il décrit les choses avec exactitude, il décrit le voyage avec exactitude, il décrit les craintes des voyageurs avec exactitude, de dire que bon, bah, ils craignaient la région de Syrte, qu'ils essaient d'alléger le bateau, l'ordre avec lequel ils vont jeter les choses, les termes marins très exacts, par exemple quand ils parlent du voile d'Artimon, le fait qu'ils ceinturent le bateau. C'est où ça? C'est verset 17. Tout ce qu'ils redoutent, les régions, les îles, les mers, les côtes, la direction, c'est pas quelque chose de mythique ou de légendaire où d'un coup ils se retrouvent à des coins bizarres. C'est quelque chose de très très détaillé, un récit de quelqu'un qui a vu les choses, qui a tout vécu. C'est vraiment quelque chose de détaillé, d'exact. Les distances, quand on lit les commentaires, ils essaient d'estimer à peu près la durée de pendant laquelle ils ont dérivé, d'estimer par rapport à ceux qui savent des bateaux, de la vitesse à laquelle ils auraient pu dériver dans la mer, de dire que c'est très exact, l'idée de la distance à peu près entre Crète et Malte, et s'ils ont dérivé au sud, et qu'après ils sont remontés vers le nord, et c'est vraiment. C'est pas quelque chose de. C'est pas un récit vraiment comme on peut le retrouver peut-être dans des trucs comme l'Iliade et l'Odyssée. Ça contraste vraiment avec ces textes. Oui.
Ce qui est intéressant justement, c'est de vérifier l'exactitude dans les domaines physiques. Et tout nous pousse à croire que s'il y a cette exactitude dans les choses physiques, il y a la même exactitude dans les choses spirituelles. Donc tout ce que Luc déclare spirituellement, on est habitué, on peut lui faire confiance parce qu'on a vu ça, c'est un récit de journaliste. C'est pas seulement un bien en soi, ça permet d'adhérer à tout ce qui est spirituel dans son récit.
Ça permet de vérifier le caractère de Luc. Et de voir la manière avec laquelle il écrit qui est en effet, comme il l'a marqué au début de l'évangile de Luc, où il dit « j'ai recherché toutes ces choses avec exactitude ». C'est un récit méticuleux, limité sans doute par la place. On va voir que le chapitre 28, on a l'impression qu'il coupe au court. Mais on avait dit qu'il y avait une limitation physique à cause de la taille des parchemins utilisé à l'époque et qu'il ne pouvait pas écrire des choses ne pouvait pas écrire et écrire et écrire, qui devait se limiter à une certaine taille. Voilà.